Alors, c'est une histoire que j'ai entendue. Je sais pas si c'est une vraie histoire, mais en fait, c'est un homme qui accroche son pasteur à la fin d'un service. Et puis, il dit, « Pasteur, faut absolument qu'on se rencontre, j'ai un gros problème. » Alors, le pasteur lui dit, « Ben regarde, on va se parler tout de suite. On va se mettre un petit peu à l'écart. » Et puis là, l'homme dit à son pasteur, « Tu sais, pasteur, avant, je gagnais 1 000 $ par mois. J'étais en dessous du seuil de la pauvreté. J'avais de la misère à arriver, mais j'avais aucun problème à donner mon offrande, mon 10% à chaque mois, sans problème. » Il dit, « Maintenant, le Seigneur m'a béni. Je gagne plus de 10 000 $ par mois. Mais là, quand je pense à qu'est-ce que ça représente, 10% de 10 000 $, il dit, là, j'ai beaucoup plus de misère à donner mon offrande. » Alors, le pasteur lui dit, « Ben, je pense que la meilleure chose, ça serait de prier. » Alors là, le pasteur, il prie, puis il dit, « Seigneur, aide mon frère à retourner à 1 000 $ par mois. » Alors, peut-être vous l'avez deviné, là, ça va être un message sur l'argent, sur l'offrande. Alors, gros avertissement, c'est un sermon classé R. Alors, si jamais vous avez votre portefeuille pas loin, là, rentrez-le le plus profondément possible dans vos poches, la poche arrière préférablement. Assoyez-vous dessus bien confortablement parce qu'on va commencer. Non, blague à part. Vous êtes une église extrêmement généreuse. Des levées de fonds, des occasions, vous en avez des multiples et à chaque fois vous êtes au rendez-vous avec vos dons. Alors vraiment, vous êtes une église extrêmement généreuse et j'ai beaucoup à apprendre de plusieurs d'entre vous en qu'est-ce qui est de la générosité. Peut-être que vous l'ignorez, mais il y a un verset sur 6 ou un passage sur 6 dans la Bible qui parle d'argent. Un passage sur 6. Il y a une parabole sur 3 qui a un thème qui tourne autour de l'argent. Et puis, c'est pas que Jésus est un organisateur de levée de fonds. Mais Jésus est intéressé à notre cœur. Et souvent, notre cœur est lié avec notre argent. Et puis, au verset 34 du chapitre 12 de Luc, tournez-y pas, c'est un très court verset. « En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Jésus est intéressé à votre cœur. Ce matin, on va utiliser le passage de Philippiens au chapitre 4. On va lire les versets 10 à 20 et puis on va utiliser ce passage comme un outil diagnostique qui va nous révéler notre condition spirituelle. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'étais allé voir un médecin pour la première fois en plus de 7 ans et puis j'ai cru bon aller voir mon médecin pour des tests généraux, pas pour aucune raison en particulier. Alors, mon médecin a pris ma pression. Mon médecin m'a demandé d'aller faire des prises de sang pour vérifier certaines choses, certains paramètres dans mon sang. Mon médecin aurait pu utiliser un électrocardiogramme. Mon médecin aurait pu utiliser des radiographies, il aurait pu utiliser toutes sortes de moyens diagnostiques pour pouvoir porter un diagnostic sur mon état de santé. Et d'une manière similaire, il y a des outils qui vont révéler notre état de santé spirituelle. Et puis là, probablement que vous pensez à « Est-ce que je passe du temps dans les Écritures? » Ça, c'est un bon outil diagnostique pour vérifier, valider notre état de santé spirituelle. Également, la prière. Est-ce que je prie régulièrement? Est-ce que j'ai la victoire sur des tentations? Est-ce que je suis assidu à l'église le dimanche, le mercredi, peu importe la journée de la semaine où vous avez votre rencontre de prière? Et il y a aussi la manière dont nous dépensons notre argent. Ça aussi, ça peut être un outil diagnostique pour vérifier l'état de santé, notre état de santé spirituelle. La manière dont nous dépensons notre argent en dit long sur qu'est-ce qui est important pour chacun de nous. Avant de lire Philippiens, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte. Alors, le chapitre 4 de Philippiens, en fait, ça se passe dans un temps où Paul, l'auteur de la lettre aux Philippiens, est en prison. Et à cette époque-là, les prisonniers romains, pas les prisonniers à Rome, les prisonniers n'étaient pas nourris. On ne s'occupait pas de leurs besoins en termes de nourriture, vêtements, s'il y avait besoin de voir un médecin, il n'y avait pas de carte soleil, il fallait tout payer. Alors, les personnes qui étaient en prison à cette époque-là, à Rome, devaient compter sur des amis de la famille pour amener de l'argent, pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant qu'ils étaient incarcérés. Alors, l'église de Philippe est à 1300 kilomètres de Paul. Et puis, ils ont entendu parler de la situation de Paul. Et ils ont décidé de prendre une offrande spéciale et puis ils l'ont confiée à un diacre de l'église de Philippe qui s'appelle Épaphrodite. Épaphrodite, il va franchir les 1300 kilomètres à pied pour amener l'argent que l'église de Philippe envoie à Paul. Alors, ça va être un très long voyage pour Épaphrodite. Il va avoir beaucoup d'embûches, mais il va finalement parvenir à amener l'argent à Paul. Et la lettre aux Philippiens, c'est en fait la réponse que Paul envoie à l'église de Philippe pour les remercier de leurs dons généreux à son égard. Et on va regarder ce matin spécifiquement, merci, voilà, il faut que je le lise, sinon je ne le dis pas comme il faut. Le don, on va regarder la partie de la lettre qui traite spécifiquement du don que Paul vient de recevoir. Alors, sans plus tarder, Philippiens chapitre 4, verset 10, et on va lire jusqu'au verset 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, Et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais regarder avec vous, à la lumière de la lecture de ce passage, quatre choses que communiquent nos offrandes à nous-mêmes. Alors, quatre choses que communiquent nos offrandes à nous-mêmes. Alors, la première chose, nos offrandes nous communiquent qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que nous apprécions. Au verset 10, on lit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait. » On ne sait pas trop exactement le contexte du verset 10, mais on sait deux choses. Ce n'est pas la première fois que l'Église de Philippe fait parvenir un don à Paul. Et deux, pour une raison ou une autre, les Philippiens voulaient aider Paul, mais ils ne pouvaient pas jusqu'à maintenant. Le don que fait les Philippiens à Paul démontre leur intérêt envers Paul, envers la mission de Paul. Paul est un missionnaire, il propage l'Évangile et ils veulent le soutenir parce que ça, la propagation de l'Évangile, c'est quelque chose qui intéresse les Philippiens. C'est facile de voir qu'est-ce qui intéresse une famille simplement en regardant les relevés de cartes de crédit, les transactions bancaires qui vont passer dans le compte sont facilement accessibles avec Internet. Maintenant, on peut tout regarder facilement. Toutes les dépenses qu'on fait. Et puis, la manière que l'on dépense démontre notre intérêt, démontre qu'est-ce qui nous intéresse. Et on peut dire beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'on aimerait accomplir avec notre vie, qu'est-ce qui nous intéresse. Mais quand on regarde où on dépense notre argent, on peut avoir des surprises et réaliser qu'on ne met pas notre argent aux bonnes places ou sur les choses qui devraient nous intéresser encore plus. Deuxième point, sur les quatre points de ce matin, nos offrandes nous communiquent notre niveau de confiance en Christ. Au verset 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Paul ici veut exprimer aux Philippiens qu'il n'est pas en train de leur demander un autre don. Et puis moi, ce matin, comme Paul, je ne vais pas à la fin de mon sermon vous proposer, vous montrer un projet où vous allez pouvoir investir. Alors là, vous pouvez tous relaxer. Là, si vous pensiez que je m'en allais là, je ne m'en vais pas là. Comme Paul, je ne m'en vais pas là. Je ne veux pas essayer de vous demander un don. Voici pourquoi, Paul il dit, voici pourquoi je ne suis pas en train de vous demander un autre don. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Au verset 12, il va nous donner encore plus de clarté sur sa pensée. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Paul est en train de dire, peu importe mon compte en banque, peu importe l'abondance, ou bien de ne pas même avoir assez à manger, ça n'affecte pas ma légèreté de cœur, ça n'affecte pas ma paix intérieure. Je suis dans le contentement. Paul est en train de dire qu'il n'y a pas de lien entre son bien-être et l'argent. Paul écrit à l'église de Philippe en Grèce. Peut-être que vous êtes familier avec le contexte très philosophique de la Grèce de cette époque. Alors, il y avait beaucoup de courants de pensée, beaucoup de philosophes, et puis il y avait un groupe de personnes, un courant de pensée qui s'appelait les stoïques. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler des stoïques. Alors, les stoïques veulent s'immuniser contre les malheurs de la vie en restant de glace, en ne démontrant aucune émotion. Alors, peu importe des mauvaises ou des bonnes nouvelles, ils sont toujours de glace. Et le contentement est l'attitude qui caractérise les stoïques. C'est leur plus grande caractéristique, c'est le contentement. Peu importe ce qu'ils ont, ce qu'il arrive, ils sont dans le contentement. Ça ne change pas leur humeur. Donc, plusieurs pourraient dire que Paul est un stoïque. Mais il y a une grande différence entre les stoïques qui recherchent à être indépendants de tout le monde et de toute chose par le contentement et Paul. Et puis, au verset 13, on comprend que Paul va chercher son contentement en Christ. Au verset 13, Paul dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Son contentement prend racine dans sa relation avec Christ. Pour Paul, Jésus plus rien égale tout. Si Paul a Jésus, il a tout. Et puis ça, c'est le titre d'un excellent livre en passant. Je vous le conseille fortement. Et puis le verset que je viens de vous dire, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ », est un des versets les plus cités de la Bible. Moi, personnellement, c'était le verset que j'aimais réciter lorsque j'arrivais au 8e kilomètre d'une course de 10 kilomètres, où je me trouvais face à la plus grande côte du parcours et je devais la monter. Alors, en apercevant la côte, je commençais à me réciter « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et puis, j'espérais juste que mon cœur allait me toffer jusqu'en haut de la côte. C'est vrai que Dieu nous donne la vie, nous donne l'air, nous donne la nourriture, nous donne la santé, nous donne tout. Tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut tout. On peut ce qu'on fait, on peut le faire à cause que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir le faire. Mais il faut considérer le verset dans son contexte. Paul est capable de dire que Jésus plus rien égale tout, que Jésus est tout pour lui, parce que dans ce contexte spécifique, il s'attend à Dieu pour ses besoins. Pour ses besoins matériels. Il est dans une situation où il ne peut pas gagner des sous, il est emprisonné et il s'en remet à Dieu et il peut tout par celui qui le fortifie, Christ. Il peut être dans le contentement parce que Christ le fortifie. Laissez-moi vous parler d'une autre église à qui Paul a écrit au moins deux lettres, l'église de Corinthe. Paul a écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et c'est une autre église dans le même pays. C'est une autre église en Grèce, mais ce n'est pas une église dans la même province. Alors, L'église de Philippe est dans la province grecque de la Macédoine et l'église de Corinthe est dans la province grecque d'Achaïe. Deux provinces à une certaine distance l'un de l'autre, mais dans le même pays. Voici un passage que Paul a écrit à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y a eu plusieurs difficultés. Et dans le passage qu'on va lire dans 2 Corinthiens, Paul veut les exhorter ou les encourager à donner. 2 Corinthiens 8 au verset 1, puis on va lire jusqu'au verset 4. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, là, c'est 4 versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La question à 100 points. Pouvez-vous me nommer une église qui se trouve en Macédoine? On vient de le dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est sûr, on vient de le dire, c'est Philippe, l'église de Philippe. Et c'est une des églises en Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alors, Corinthe est une église relativement riche. Les Philippiens sont pauvres. Dans le contexte actuel, l'église de Philippe a une grande persécution et il y a un boycott de tous les commerces qui sont tenus par des chrétiens. Il y a des faillites, il y a beaucoup de précarité financière. Et qu'est-ce qu'on lit dans 2 Corinthiens? On lit qu'ils ont demandé à Paul, avec de grandes instances, la grâce de participer à l'assistance destinée aux saints. L'assistance destinée aux saints, ça fait référence à une collecte que Paul a organisée pour envoyer à Jérusalem à des chrétiens qui mouraient de faim à Jérusalem. Et puis l'église de Philippe, qui avait beaucoup de problèmes financiers, se sont dit, nous, on veut aider ceux qui sont encore pires que nous. On est prêt à les aider. Et puis même, Paul a sûrement leur a pas demandé d'aider l'église de Jérusalem parce qu'ils savaient leur précarité financière. Eux sont venus devant Paul avec de grandes instances. Elles leur ont demandé la grâce de pouvoir participer. Les Philippiens savaient comme Paul qu'ils pouvaient faire toutes choses par celui qui les fortifiait, Christ. Peu importe leur pauvreté. Ce que nous donnons, notre offrande, démontre notre confiance en Dieu. Que Dieu va prendre soin de nous. Troisième point ce matin, nos offrandes communiquent du leadership dans la cause de l'Évangile. Au verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile. Et puis ici, il parle au début de la prédication de l'Évangile sur le continent européen. Lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. Ici, il semble avoir un problème. Il y a seulement l'église de Philippiens qui ont soutenu Paul au début de son ministère. Il y a seulement eux qui étaient prêts à emboîter le pas et à soutenir leur missionnaire Paul pour le début de la prédication de l'Évangile sur le continent européen. Et dans 2 Corinthiens, on peut lire un petit peu sur cette situation. Pourquoi il y a seulement l'église de Philippe? Et puis, dans 2 Corinthiens, on lit que l'Église de Corinthiens commence à se poser des questions sur Paul. Paul est-il trop payé? Pour quel motif prêche-t-il l'Évangile? C'est-tu seulement pour l'argent qui fait ça? Et à cause de ces questions que l'Église de Corinthe vont poser à Paul ou vont se demander, Paul va essayer de leur démontrer que ça n'a rien à voir avec l'argent, qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Alors, il va accepter aucun salaire de l'Église de Corinthe, même si dans les Écritures, c'est son droit. Au 2 Corinthiens 11, au verset 8 à 9, on lit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, je m'en garderai. » Voici l'ironie. Une église riche pose toutes sortes de questions, ne sont pas prêts à soutenir Paul, un missionnaire, mais il y a une église pauvre, Philippe, qui, eux, sont prêts à emboîter le pas pour l'avancement de l'Évangile. Les Philippiens sont des leaders. Et puis, il faut que ça soit dit, l'Évangile va progresser. Peu importe si nous, on donne ou pas. Dieu va susciter des leaders qui vont donner pour l'avancement de l'Évangile. Alors, ça ne s'arrêtera pas. Quatrième point ce matin, nos offrandes communiquent un désir de richesse céleste. Au verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Au verset 17, Paul se répète une deuxième fois. Ce n'est pas que je recherche les dons. Je ne suis pas en train de vous demander de m'envoyer d'autres argent. Je ne recherche pas les dons. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Ils recherchent qu'un fruit abondant soit porté à leur compte. Paul nous donne l'image d'un compte en banque céleste, où il y a des dépôts abondants qui sont portés à notre compte. Aimez-vous ça, entendre parler de ça, des dépôts abondants déposé dans votre compte. Ça me fait penser la joie que j'avais en sachant que le 27, mon bonus allait être déposé. Puis toute l'anticipation de voir ce montant déposé dans mon compte. Et puis après ça, j'ai eu une petite déception parce que finalement, la compagnie ne nous a pas dit, mais un problème de liquidité, ça va être le mois prochain. Alors en tout cas. Mais juste l'idée d'avoir un dépôt abondant dans mon compte, ça me réjouissait. Voici la bonne nouvelle de ce matin. Voici la très bonne nouvelle de ce matin. On a tous déjà entendu dire qu'on ne peut pas amener nos richesses avec nous au ciel. Tout le monde a déjà entendu ça, oui? Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que c'est faux. C'est pas vrai. Vous pouvez en amener des richesses avec vous au ciel. Vous pouvez en amener autant que vous voulez. Il faut simplement l'envoyer avant nous. Investissez maintenant dans votre compte céleste. Là, vous allez peut-être dire, « OK, Mathieu, il a investi dans mon compte céleste, mais il y a ce que les Philippiens faisaient. Hein? » Ça, c'est plus qu'investir. Et puis, pour des gens qui sont comme les Philippiens, qui sont dans la pauvreté et qui veulent quand même donner à des gens encore plus pauvres qu'eux, il y a le verset 19. Pour toutes ces personnes, comme les Philippiens, qui donnent avec de grands sacrifices. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà un autre verset très cité et peut-être souvent mal cité. Ici, au verset 19, c'est une promesse qui est faite pas à n'importe qui. C'est une promesse qui est faite à celles et à ceux qui donnent avec sacrifice, qui se privent de quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. À quelqu'un qui donne de cette manière, Dieu pourvoira à tous ses besoins conformément à sa richesse. Et puis, j'ai lu quelque chose d'intéressant ici, là, dans ma préparation. Il y a une différence entre conformément à sa richesse et si, exemple, ça aurait été écrit à partir de sa richesse. Dieu pourvoira à tous mes besoins à partir de sa richesse. C'est pas écrit ça, c'est écrit conformément à sa richesse. Et puis voici comment ça a été expliqué, la différence entre les deux. Imaginez que vous avez de gros ennuis financiers. Et qu'un multimilliardaire venait cogner à la porte. Vous ouvrez la porte, vous êtes très surpris de voir ce multimilliardaire sur votre perron, et il vous dit, « J'ai entendu parler de votre situation, j'aimerais faire un petit quelque chose pour vous. » Alors, il vous remet un chèque plié en deux, vous êtes bien trop gêné pour l'ouvrir devant lui, alors vous attendez qu'il aille quitter. Lorsqu'il a quitté, vous ouvrez le chèque. Vous regardez, c'est écrit 1 000 $. Bon, un peu décevant. C'est pas ce que vous attendiez. C'est pas rien. C'est pas rien, 1 000 $, là. C'est pas rien. Vous êtes content, mais ce n'est pas ce que vous attendiez. Bon, ça c'est à partir de ses richesses. Rewind, on recommence. On recommence l'histoire. Le milliardaire cogne à votre porte et vous donne le chèque. Vous êtes trop gêné pour le regarder devant lui. Vous lui dites merci, il s'en va. Une fois qu'il est parti, vous ouvrez le chèque. Le chèque est signé. Mais il n'y a aucun montant d'écrit. Un chèque en blanc. Alors là, vous vous demandez, en fait, vous ne vous demandez pas quel montant mettre. Parce que vous êtes sûr que le chèque va être honoré par la banque. Que le chèque ne va pas rebondir. Vous êtes sûr qu'il y a des fonds suffisants dans le compte en banque de ce multimilliardaire pour couvrir vos besoins financiers. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Alors, vous écrivez le montant que vous avez besoin, vous allez le porter à la banque. Ça, c'est donné conformément à ses richesses. Excusez-moi. Ah oui, il fallait que je tourne la page. Voilà, bon, OK. Voici un autre exemple. Voici une vraie histoire. Un certain monsieur Letourneau, qui était grand patron d'une compagnie qui s'appelle Caterpillar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Caterpillar. Ils font des immenses machines, des loaders, des excavateurs, des rétrogradeuses, des toutes sortes, des immenses machines. Et puis, on a cité M. Letourneau en disant que on a dit de M. Letourneau que lui vivait avec 10 % de son salaire et donnait 90 % de son salaire. Et puis, il a été cité en disant, « Moi, je pèlte de l'argent vers Dieu, mais Dieu pèlte de l'argent vers moi et il a une bien plus grosse pelle que moi. » Ce matin, ce n'est surtout pas l'évangile de prospérité que je suis en train de vous partager ce matin. Ce n'est pas donner 10 $, recevez 100 $ dans les 10 prochains jours. Non, rien de ça. C'est seulement pour dire Dieu ne laisse pas ses enfants dans le besoin. Et pour être capable de dire ça ce matin, je dois être sûr à 100% que Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui entend ce message et qui va donner avec sacrifice. On peut être sûr à 100% mettre notre confiance sur le verset 19 que Dieu va prendre soin de nous conformément à ses richesses. En terminant, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon beau-frère. Mon beau-frère, son père, avait un grand vide à l'intérieur de lui. Il s'est tourné vers le bouddhisme pour remplir ce grand vide à l'intérieur de lui. Il pouvait jeûner et méditer pendant plusieurs jours sans manger. Et il méditait pour avoir un sentiment de bien-être. Et puis, malgré qu'il atteignait certains niveaux de bien-être, c'était jamais suffisant, il s'est tourné vers d'autres choses. Et malheureusement, ça a été de la drogue et il a vécu des moments très, très difficiles. Et un jour, il a entendu parler de Jésus et du sacrifice à la croix et que tous ses péchés avaient été payés et pardonnés s'il acceptait le don gratuit de Dieu. Et il est devenu chrétien. Sorti du milieu très difficile où il vivait, où il était, il a commencé à donner des cours de conduite. Et puis, un jour, il s'est senti appelé à être à temps plein pour Dieu. Et il vivait de dons. Il a lâché son emploi, il a fait du porte-à-porte de l'évangélisation, et puis il a commencé à prendre des cours et il est devenu pasteur. Et il était pasteur d'une très petite église. Et un jour, mon beau-frère me raconte qu'il se demandait qu'est-ce qui allait se passer parce que ça faisait longtemps que ses parents n'étaient pas allés faire l'épicerie. Ça faisait longtemps que le frigo, il n'y avait presque rien. Puis le garde-manger, il n'y avait presque rien. Puis là, il n'y avait vraiment plus rien. Puis il se demandait qu'est-ce qu'il allait manger ce soir-là. Et puis, ils étaient tous assis autour de la table. Et son père a prié. Et avant qu'il ait dit « Amen », la porte a sonné. Et puis, c'est une dame de l'Église. Elle a dit, « Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais j'étais à l'épicerie. » Puis j'avais la conviction qu'il fallait absolument que je vous apporte ces deux sacs d'épicerie. Vous allez peut-être me trouver folle, mais en tout cas, je ne pouvais pas ignorer. Alors voilà. Et puis ce soir-là, ils ont pu manger. Et puis, encore plusieurs fois, Dieu a pourvu pour leurs besoins. Dieu a pourvu pour la famille de cet homme qui a décidé de s'en aller, d'aller tête première pour le ministère, sans filet, sans retenue, de donner avec sacrifice. Et le Seigneur l'a béni. Je vous encouragerais cette semaine à, devant Dieu, regarder vos offrandes, vos finances. Et moi, je vais le faire. Regardez, est-ce que vous êtes en santé dans le domaine de vos finances? Et puis, je demanderai à Dieu d'ajouter sa bénédiction à la prédication de la parole ce matin et que vraiment nos cœurs puissent être touchés. À Dieu soit la gloire.